Vous êtes bien sûr Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. La réouverture à la mi-juillet de la frontière terrestre entre l'Algérie et la Tunisie, elle était fermée depuis 2020 à cause de la pandémie de Covid-19. Le gel des comptes bancaires de plusieurs opposants au président tunisien. Le comité tunisien des analyses financières a demandé aux banques d'appliquer immédiatement cette décision. Le 50e anniversaire ce mois-ci de la promulgation de la loi contre le racisme et la xénophobie, Jean-François Cantin, coprésident du mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, reviendra sur le caractère historique de ce texte. Il sera l'un de nos invités. Gros plan dans votre journal sur une nouvelle création, Akima, 5 juillet 1962, je me souviens, une pièce liée à la mémoire de l'Algérie, pièce écrite par Mohamed Kaki que vous entendrez. L'Algérie va rouvrir à la mi-juillet la frontière terrestre avec la Tunisie. Elle était fermée depuis 2020 en raison de la pandémie de Covid-19. L'annonce de cette réouverture a été faite par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Il était aux côtés de son homologue tunisien Kais Saied qui s'apprêtait à quitter le pays après avoir assisté aux festivités marquant le 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Jusque-là, le trafic routier entre les deux pays se limitait au transport de marchandises, les liaisons aériennes et maritimes entre les deux pays avait repris en juin 2021. Un tribunal tunisien a gelé les comptes bancaires de plusieurs opposants au président tunisien, parmi eux Rached Ranouchi, chef du Parlement dissous et président du parti Ennahda, son fils Mouad, l'ancien premier ministre Hamadi Jebali et l'ancien ministre des Affaires étrangères Rafik Abdesalem sont eux aussi concernés par cette mesure. Le comité tunisien des analyses financières a publié un communiqué informant les banques qu'elles devaient appliquer immédiatement la décision du juge d'instruction du pôle antiterroriste. C'était vendredi dernier, le 50e anniversaire de la promulgation de la loi contre le racisme et la xénophobie. Un texte historique, comme le souligne Jean-François Cantin, coprésident du mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, le MRAP qui a eu une influence dans l'adoption de cette loi. Jean-François Cantin.
Je crois qu'on peut parler de jour historique. D'abord parce que avant, il y a un passé qui montrait la nécessité de cette loi depuis longtemps, puisqu'il y a eu un décret en 1939, mais qui était très insatisfaisant. Et pendant au moins une dizaine d'années après-guerre, il y a eu la nécessité d'avoir une véritable législation contre le racisme. Et ça a été un long débat politique, je ne résumerai pas ici, qui a abouti en 1972, alors sous l'impulsion du Premier ministre Chaban Delmas de l'époque, et avec un rôle très important du MRAP qui travaillait sur cette question, qui avait déjà rédigé des projets de loi. Ça a donc abouti à cette loi de 1972, qui est historique à un autre titre d'ailleurs, c'est que l'unanimité de l'Assemblée nationale et du Sénat a adopté cette loi. Alors il y a eu donc ce passé, et puis il y a eu un avenir à cette loi, parce qu'elle a défini des critères sur le rejet de l'autre, qui a engendré au fil des années toute une législation consécutive, si on peut dire. D'abord en 1990, une loi sur la négation des crimes contre l'humanité, et puis tout un groupe de lois sur la discrimination, qui sont toutes les lois actuelles sur toutes les discriminations, pas seulement raciales ou d'origine. Le sexisme, la xénophobie, mais aussi l'homophobie, sont en quelque sorte des petits-enfants de cette loi de 72.
Et le droit français n'était jusque-là pas dépourvu d'instruments contre les propos racistes. Il y avait notamment le décret-loi du 21 avril 1939, ce décret dit Marchandeau. C'était alors le maire de Reims qui était ministre de la Justice.
Tout à fait, il y avait ce décret. Ce décret-loi. Mais il était très, très imparfait et il était presque inutilisable. Il a été très peu utilisé avec succès. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques qui font qu'il était très insatisfaisant. Mais l'idée, effectivement, qu'il fallait légiférer sur ce domaine existait déjà, oui, c'est vrai.
Cette loi du 1er juillet 1972, elle a contribué à faire évoluer les mentalités qui n'étaient pas sensibilisées à la lutte contre le racisme.
Absolument. Si on regarde la presse ou les publications antérieures, tout était possible et permis. On pouvait se permettre des propos qui maintenant feraient, non seulement conduiraient à une condamnation, mais feraient sursauter, tellement la parole raciste était libre et voire normale. Et le grand événement qu'a introduit cette loi, alors, outre les procès et les condamnations, c'est l'idée même que le racisme n'est pas une opinion, mais est un délit, quelles que soient les péripéties juridiques, judiciaires qu'elle entraîne. C'est cette idée-là qui s'est imposée, je dirais, du point de vue civique, que le racisme est un délit. Ça aussi, c'est tout à fait historique.
Et cette loi vous a permis aux associations comme le MRAP à déployer des outils pour lutter contre le racisme.
Déjà, en soi, c'est un outil juridique qui fait que nous, et puis bien d'autres, et puis chaque citoyen d'ailleurs, peut porter plainte. Et il y a de très nombreux procès qui incluent cette incrimination. Il y en a qui sont gagnés, il y en a qui sont perdus, on ne va pas rentrer dans les détails. Donc c'est déjà un outil technique, juridique, et puis comme je le disais, c'est un outil politique qui trace une ligne rouge entre ce qu'est une opinion et ce qu'est un délit.
Une loi qui contribue également à combattre le racisme social, c'est un élément important.
Oui, alors nous on appelle ça une loi un peu matricielle, c'est-à-dire que elle est le point de départ de toute une autre série de réglementations ou de lois, et en particulier le bouquet des 27 discriminations, dont la discrimination sociale. L'idée même de discrimination, c'est en quelque sorte généralisée à de nombreuses autres causes, dont effectivement la discrimination sociale.
50 ans après, quand vous voyez la poussée de l'extrême droite, notamment, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit et comment vous jugez aujourd'hui l'efficacité de la lutte contre le racisme ?
Évidemment, le combat n'est pas gagné totalement. Hein. Ce n'est pas parce qu'il y a une loi et les idées dont je parlais qui se sont répandues de délits que le combat historique est terminé, hein, on le voit bien. Alors, les causes de la poussée de l'extrême droite ne se réduisent pas forcément à la question du racisme, hein, sur lequel d'ailleurs les politiciens sont obligés de faire un peu attention ou d'avoir des éléments de langage un peu contournés. Mais la poussée de l'extrême droite, c'est aussi lié à tout un ensemble d'idées réactionnaires qui sont à combattre et bien sûr que le combat n'est pas fini.
Il existe aujourd'hui des divergences idéologiques entre les différentes organisations qui luttent contre le racisme.
Oui, bien sûr, mais ça, disons que c'est un peu normal parce que il ne peut y avoir des débats sur les causes du racisme, sur ces différentes formes, leur importance, sur la façon de lutter contre ce phénomène. Mais disons que ça, c'est la vie politique et idéologique normale, qu'il y ait des débats. Tout organisme vivant avance en tâtonnant.
Cette loi du 1er juillet 1972 a été adoptée par la France. Comment se situaient à ce moment-là les voisins de la France et les pays européens ?
Non seulement elle a été innovatrice pour la France, mais pour le monde, parce que tous les pays n'ont pas une législation antiraciste. Ceci dit, elle est arrivée en 72 à une période où l'ONU elle-même, collectivement, ou plus exactement l'UNESCO, mais c'est un organe de l'ONU, avait adopté une convention quelques années avant, en 1965, sur la lutte contre le racisme. Donc c'était quand même dans l'air du temps qu'il fallait combattre le racisme à l'échelle internationale. Mais ça ne s'est pas traduit partout, loin s'en faut, par une législation nationale aussi claire que la loi de 72.
Jean-François Quentin, coprésident du mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. La Russie dénonce une violation de l'étiquette diplomatique après la diffusion d'un entretien téléphonique entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Le chef de la diplomatie russe s'est offusqué aujourd'hui de la publication par la chaîne France 2 d'une discussion entre les présidents français et russes, 4 jours avant que Moscou lance son assaut contre l'Ukraine. L'étiquette diplomatique ne prévoit pas de fuites unilatérales de tels enregistrements, selon les mots du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Une grève à la SNCF aujourd'hui en France, grève qui perturbe les départs en vacances. 3 trains à grande vitesse sur 4 circulent et certaines lignes de TER, 2 TER sur 5. Le trafic international est normal ou quasi normal. Les syndicats demandent une hausse des salaires face à l'inflation. La première ministre prononcera vers 15h son discours de politique générale. Elisabeth Borne évoquera le projet d'Emmanuel Macron sur les questions liées à l'emploi, l'urgence écologique et l'égalité des chances. Elisabeth Borne ne demandera pas la confiance de l'Assemblée nationale, un vote qui n'est pas obligatoire. L'invité de rencontre hier soir et ce matin était Mohamed Kaki, comédien, dramaturge, président et fondateur de l'association Les Oranges. Après avoir présenté une pièce sur le 17 octobre 1961, il propose une nouvelle création à la rentrée. Akima, 5 juillet 1962, je me souviens, à nouveau une pièce liée à la mémoire de l'Algérie. Alors que représente cette date du 5 juillet pour lui, Mohamed Kaki?
La joie et encore la joie. C'est-à-dire que c'est un grand moment de plaisir et de libération au sens général, c'est-à-dire l'idée que nous sommes libres, du joug du colonialisme, parce qu'il faut savoir ce qu'a été le colonialisme. Le plus dur, c'est pas de construire le pays. Le plus dur, c'est de reconstruire les esprits. C'est-à-dire que, et j'en parle dans ma pièce de théâtre, c'est la question des corps qui m'intéresse, la question des esprits. C'est-à-dire avoir justement une liberté, reconquérir cette idée de liberté, se redresser, comme je le dis dans le texte. C'est très important de se redresser et d'être fier et d'être debout et de dire « nous sommes des femmes et des hommes libres ».
Ça a été important aussi l'apport des femmes à l'indépendance de l'Algérie, Mohamed Kaki.
Absolument, elles ont été d'une efficacité redoutable et surtout elles ont été très courageuses et très résistantes et très résilientes. Parce que elles ont subi beaucoup, et notamment, j'en parle aussi à travers Akima, c'est quelque chose dont on ne parle jamais, parce que soit il y a la honte, soit il y a l'humiliation, le désespoir d'en parler, parce qu'il y a une chose redoutable que la guerre d'Algérie et le colonialisme d'une manière générale depuis 1830, c'est le fait de porter atteinte aux femmes. Les colons ont aussi porté atteinte aux femmes et aux jeunes filles, et donc j'en parle dans mon texte, cette jeune fille, Akima, qui a disparu, qui a 15 ans. Et il faut savoir que l'armée française, quand elle venait s'installer près de villages, non seulement elle faisait des razzias pour prendre à manger les récoltes des paysans, etc. Et donc elle affamait d'une certaine manière les paysans, mais en plus, elle kidnappait des jeunes filles. Et ça, c'est quelque chose dont on ne parle jamais. Et ce qui est intéressant, justement, c'est que c'est cette tradition orale de transmission On apprend ça par les grands-parents, on apprend ça par l'histoire qui se transmet. En fait, on ne l'apprend pas, on l'apprend par le silence, par le fait de ne rien dire. Et justement, cette jeune fille qui interpelle son grand-père, où elle lui dit « Mais dis donc, grand-père, comment se fait-il que ma grand-mère m'a toujours parlé de qu'elle avait 3 sœurs ?» Et en fait, j'apprends, à l'occasion de vacances au bled, que finalement elle en avait 4. Et donc cette 4e, qui est gardée sous silence pendant plus de 60 ans, totalement silence, eh bien c'est cette femme-là qui va être ressuscitée par la petite fille en disant « Non, non, on va en parler, vous ne voulez pas en parler, elle a existé et elle s'appelle Akima ».
Briser le silence, parfois il faut sauter une génération, c'est pour ça que vous avez choisi une petite fille et son grand-père, parce que le temps a passé, et aussi cette jeune fille a 20 ans, elle est étudiante et elle veut savoir, Mohamed Kaki.
Oui, absolument, c'est toujours douloureux de parler avec ses parents, parce que il y a des contentieux, des conflits, et c'est pour ça que, d'une manière générale, dans toutes les familles, et ça c'est universel, on ne parle pas beaucoup parce qu'il y a des cadavres cachés dans les placards. Et justement, ce sont les petits-enfants, grâce au fait qu'ils ont un lien privilégié avec leurs grands-parents. Le rapport entre un grand-père et une petite fille, c'est un rapport incroyable de liens, de complicité, et qui fait que la petite fille va pouvoir faire craquer son grand-père et le faire parler alors qu'il n'a jamais voulu parler, et surtout pas, et certainement pas, de ces choses horribles.
Le fondateur de l'association mémorielle Les Oranges, Mohamed Kaki, au micro de Loïc Barrière. La Coupe féminine d'Afrique des Nations, l'équipe du Maroc s'est qualifiée pour les quarts de finale, prévue vendredi prochain. Les Lions de l'Atlas ont battu l'Ouganda 3-1. Dans le groupe A, les Sénégalaises, leurs prochaines adversaires, sont déjà assurées de disputer le deuxième tour de la CAN 2022. Fin de cette édition. Vous êtes bien sur Radio Orient à 12h30. Votre journal en langue arabe vous sera présenté par Mazen Hamoud. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour le flash, 17h30 pour le journal. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient, il est 12h17.